Studio Tamani, voici les informations en français.
Adieu 2023, le prix du pèlerinage s'élève à plus de 4 160 000 francs CFA pour le gouvernement contre 4 670 000 francs CFA pour la filière privée. Ce prix est exorbitant selon la population. Au centre du pays, 4 villages de la commune de Ségué sont complètement vidés de leur population suite à des menaces terroristes. Des dizaines de personnes ont tenu ce vendredi un sitting à Kangaba. Cette manifestation vise à dénoncer la mauvaise gouvernance, la corruption et l'insécurité dans la zone. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilomega, mise en ordre de Kanyikati. Bonsoir à toutes et à tous. Le coût et le quota du pèlerinage 2023 ont été fixés avec la levée de certaines restrictions par l'Arabie Saoudite. Plus de 13 000 candidats au Hajj pourront quitter le Mali cette année. Chaque pèlerin doit payer 4 675 000 francs CFA au niveau de la filière privée. Pour la filière gouvernementale, ce sera environ 4 170 000 francs CFA. Le point avec Fatih Attara.
Les tarifs de cette année ont ainsi augmenté avec plus de 260 000 francs CFA comparé à ceux de l'année dernière. Les agences de voyage craignent que cette augmentation des tarifs ne décourage certains candidats. Cependant, les potentiels pèlerins doivent comprendre que cette situation est liée à des innovations opérées du côté de la Mecque, affirme Amadou Meiga, secrétaire général de la commission des agences de voyage. Le directeur général de la maison du Hajj, Abdoul Fattah Cissé, cite notamment l'augmentation des frais d'assurance. Toutefois, la limitation d'âge fixée en 2020 a été levée. Cette année, le quota attribué au Mali par l'Arabie Saoudite est de 13 323 Maliens. Par ailleurs, certains candidats au Hajj ayant déjà payé leurs frais de pèlerinage depuis 2 ans attendent toujours de partir.
Sur le même sujet, à Bamako, Ségou, Yoroso et Bandiagara, deux Maliens dénoncent un pèlerinage 2023 trop coûteux. Pour eux, il faut revoir le coût. De propos recueillis par Adama Amadou Haïdara et de correspondant de Studio Tamani.
Pour nous les pauvres quand même, 4 millions c'est tout.
Tout musulman doit faire le Hajj, mais les gens n'ont pas les mêmes moyens. S'ils diminuent un peu le prix, ça nous fera plaisir.
Les gens veulent partir, mais ce n'est pas tout le monde qui a 4 millions.
L'année passée, on pensait que c'était à cause du Covid que c'était cher. Mais si ça continue, c'est grave.
4 millions, ça c'est cher. Il faut dire si tu n'as pas 5 millions, tu ne peux pas bouger.
Il y a tellement de difficultés. Si on nous amène jusqu'à 4 millions et quelques, c'est pas facile.
Mais même s'il y a eu une augmentation, je crois qu'avec la vie chère, là, où est le problème?
Enfin, c'est une manière de nous écarter, nous les pauvres. On compte sur le gouvernement. Et si le gouvernement même nous écarte, c'est compliqué.
Diminuer le coût du Hajj, c'est vraiment trop.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Affaire d'occupation illicite de logements sociaux de type F4 d'un tabacero et l'occupation anarchique des sites de logements sociaux. Le gouvernement a pris des mesures pour faire face à cette situation confuse née de l'occupation illégale de ces logements sociaux dédiés à la vente directe. Selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ces mesures vont de la poursuite en justice des auteurs et complices des attributions illégales au déguerpissement pur et simple des occupants illégaux. Renforcement de liens de coopération entre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, c'est l'objectif d'un mini-sommet tenu hier à Ouagadougou. Cette rencontre a réuni les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays autour du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été formulées devant servir à chacun de ces pays. Le point avec Aïssa Tagara.
Parmi ces recommandations figurent la réussite du processus de transition, la promotion de la bonne gouvernance, la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques, entre autres. Ainsi, les trois ministres ont pris l'engagement de faire de ces partenariats un axe gagnant pour le bien-être des populations. Les trois pays ont décidé de conjuguer leurs efforts pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays est aussi envisagée. Les ministres ont convenu également de développer le commerce et le transport depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina en passant par le Mali. À cet effet, ils demandent un appui technique et financier aux efforts de sécurisation devant aboutir au retour à l'ordre dans les pays respectifs.
Le Haut Conseil islamique demande aux autorités de revoir certains points de la nouvelle constitution avant la finalisation des textes. Il s'agit entre autres la question sur la laïcité, l'homosexualité. Selon ses responsables, les conventions internationales, les traités et les déclarations signées et ratifiées dans la nouvelle constitution sont en déphasage avec les valeurs sociétales maliennes. Mohamed Kimbiri, premier secrétaire à l'organisation du Haut Conseil islamique, est joint au téléphone par Lala Aïcha Welet Infa.
La laïcité est très très mal comprise et très mal appliquée chez nous. Donc si c'est la laïcité à la française, nous réjouissons ça parce que vraiment ça, c'est une laïcité qui est synonyme vraiment de l'irreligion. Deuxième point de vue, le mariage homosexuel est interdit, mais l'homosexualité même en soi n'est pas interdite. La constitution c'est loi suprême, mais quand on voit les conventions internationales, les traités et les déclarations que le Mali a signées et ratifiées par rapport à ces déclarations, il y a certaines choses vraiment qui sont en déphasage avec nos valeurs sociétales normatives. Nous ne sommes pas contre une nouvelle constitution, mais nous voulons que vraiment, en tant que composante, que nous ayons notre mot à dire dans la gouvernance actuelle.
Près de 4 villages se sont vidés complètement de leur population de la zone de Ségué, cercle de Bankass. Cette information est donnée par des sources locales, selon un responsable local qui a recueilli l'anonymat. Le cercle est confronté à des attaques de groupes armés ces derniers temps. Il demande aux autorités de prendre des dispositions afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Il est joint par Sita Sidibé.
Depuis la crise là, les populations se sont vidées de leur localité pour venir bonder les villages. La commune mère qui est Ségué, il y a d'autres qui sont partis vers Bankass, d'autres vers Bamako, un peu partout. Aujourd'hui, je peux vous donner 3 villages. Si tu pars dans leur village, tu ne trouveras rien. Il y a Djunda, il y a Djan qui s'est vidé aussi. Nondo, un gros village qui s'est vidé aussi de sa population complètement. Après les dernières attaques là, ils sont venus incendier complètement les villages. Donc après Nondo, donc il y a Djan aussi qui s'est vidé. Et tout récemment, il y a Sofounou Dogon. Ils sont venus avec l'aide des Dana. Ils n'ont pas pu incendier les villages. Ça ne va pas dans la commune de Ségué.
Le mouvement Yerewolo debout sur les remparts a organisé cet après-midi un sitting devant la MINISMA à Bamako. Les organisateurs dénoncent ce qu'ils appellent l'ingérence de la MINISMA dans les affaires publiques du pays. Ils invitent les autorités à revoir leur mandat. Le mouvement entend s'y rendre chaque vendredi devant la MINISMA jusqu'à la satisfaction de leur doléance. Des dizaines de personnes ont tenu ce matin un sitting à Kangaba. C'était à l'appel de la jeunesse du Mandé contre la mauvaise gouvernance et la corruption de la zone. Des slogans hostiles au népotisme, à la corruption et à l'insécurité ont été entendus durant certaines interventions des responsables de la jeunesse du Mandé. Ces leaders de jeunes venus des cercles de Bafoulabé, Kenyeba et Kangaba ont fortement invité les autorités locales à mettre fin à ces pratiques dans le Mandé. Dr Sekou Keïta, président de la jeunesse du Mandé, joint par Intala Akbilal.
Nous sommes en train de dénoncer une mauvaise gouvernance aujourd'hui qui sévit dans le Mandé. Nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui l'insécurité qui sévit dans le Mandé. Nous sommes en train de dénoncer exactement le comportement de nos autorités locales. Donc, en tant que patriotes républicains, la jeunesse du Mandé a décidé vraiment de donner l'information aux uns aux autres et attirer l'attention des autorités par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces comportements qui ne sont pas dignes vraiment du Mali, quoi. Dans le Mandé, dans la commune de Nouga, récemment, le 10 janvier passé, il y a eu un carnage là-bas. Nous avons perdu 41 personnes, plus de 50 blessés graves. Donc, malgré tout ça, jusqu'à aujourd'hui, même un simple communiqué de l'État.
L'actualité de la semaine a été marquée par la visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération des Russes au Mali, l'expulsion du directeur de la Division des droits de l'homme de la MINISMA, Guillaume Nguefa, et l'arrêt de travail au Gabriel Touré au point G. Le résumé de l'actualité de la semaine avec Ali Mayetra.
Nous commençons cette rétroactive par la visite de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie au Mali. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et économique entre les deux pays. Autre actualité, c'est l'expulsion du directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Guillaume Nguefa a été déclaré dimanche dernier persona non grata par les autorités maliennes. Il est accusé pour des actes de déstabilisation, dont le choix de la représentante de la société civile malienne à la tribune de l'ONU. Nous terminons cette rubrique par la grève de 72 heures du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré. Le personnel soignant a entamé mercredi un arrêt de travail de 3 jours. Il demande l'amélioration du plateau technique et le non-paiement de certaines primes. Cependant, une partie du personnel n'a pas suivi le mouvement.
Ainsi se referme cette édition présentée par Imirana Kilomaiga. Merci de l'avoir suivi.
Lundi 13 février 2023, journée mondiale de la radio. Sidio Tamani et Lurtel ensemble pour marquer l'événement.
Cérémonie à la maison de la presse à partir de 10h sur le thème Radio et paix.
La radio, un outil de paix.
Les agents des radios, des acteurs de paix.
Sidio Tamani et Lurtel pour une fête de la radio, une fête des hommes et des femmes qui font la radio au Mali.
L'événement est placé sous la présidence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'État, ainsi que du président de la HAC.
Lundi 13 février 2023, à la maison de la presse, à partir de 10h.
Studio Tamani et Urtel,
ensemble pour contribuer à travers la radio,
au développement harmonieux de la société
et à la paix au Mali.
Vers une coopération économique et commerciale entre le Mali et la Russie, les deux pays comptent étendre leur partenariat vers plusieurs domaines, notamment l'énergie et la technologie. L'annonce a été faite lors de la visite du ministre russe des Affaires étrangères au Mali le 6 et 7 février 2023. Qu'est-ce que ce renforcement de liens de coopération économique peut apporter au Mali? Le magazine Économie de cette semaine s'intéresse à la question. Il est réalisé et présenté par Moussa Malé Sissoko.
Entre Bamako et Moscou, la coopération ne se limite plus qu'au domaine de la défense et de sécurité. À en croire le chef de la diplomatie malienne, elle va plus loin. Abdoulaye Diop l'a fait savoir lors de la conférence de presse qu'il a co-animée avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la coopération sécuritaire, nous avons des avancées importantes. Nous travaillons aussi à pouvoir renforcer davantage cette coopération économique et commerciale. Nous allons au-delà dans le domaine des infrastructures, de l'énergie, des technologies, des renforcements des capacités, de la formation. Donc il y a beaucoup de possibilités. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers la formalisation du travail sur le plan économique et commercial en incluant le secteur privé des deux pays.
De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rassure que son pays soutiendra le Mali dans les secteurs de la géologie, l'agriculture, entre autres.
Nous pensons qu'il nous faut développer de tels domaines comme la prospection géologique, les ressources minérales, l'énergie, le transport, l'infrastructure, l'agriculture. Nous allons diriger les entrepreneurs de notre pays pour qu'ils puissent travailler sur ces questions. Nous allons prêter une attention particulière à la préparation à l'événement.
Cette initiative est saluée par le Conseil national de transition CNT. Amadou Albert Maïga, membre de la Commission des finances et de l'économie, nous explique l'évolution de ce partenariat.
Le fait d'étendre vraiment les compétences maintenant de la Russie dans d'autres domaines aussi, économique peut bien entendu marcher. Je suis sûr et certain que ça marchera parce que l'exemple russe, elle l'a prouvé de par le monde. La Russie ne se mêle pas des affaires internes d'un pays. Non, il y a déjà des mémorandums qui ont été signés et bien avant le forum aussi, il y aura des débats préliminaires au cours desquels, bien entendu, le Mali et la Russie vont paraphraser des accords de partenariat suivant des mémorandums et des conventions préétablies déjà. Donc nous allons continuer le processus. Une grande partie de ce que nous venons de connaître ces derniers temps seront parachevés au cours du mois de juillet et vont continuer de façon pérenne.
L'économiste Lamine Keïta prévient qu'il faut éviter la politique d'endettement qui pousse le pays à brader ses ressources minières.
Il serait important que le Mali puisse tirer les leçons de l'échec des politiques d'endettement que nous avons eues précédemment avec l'Occident. Nous avons vu que la politique que nous avons suivie sur les monnaies fortes nous a amené un peu à donner beaucoup d'importance aux monnaies étrangères dans lesquelles les pays se sont endettés de la servir. Donc du coup, on a bradé nos ressources minières pour comprendre qu'en réalité, ce sont les produits qui s'échangent contre les produits. Donc maintenant, le Mali doit bâtir sa politique maintenant sur l'usage de ces produits rares en prenant l'initiative de leur utilisation dans des projets importeurs. Aussi, on veillera à ce que ces produits ne soient pas bradés, c'est-à-dire aussi exportés à l'état brut, sans tirer aucun avantage de valeur ajoutée.
Toutefois, Omar Bitibali, économiste, souligne que la diversification des partenaires économiques est rentable pour le Mali. Il invite ainsi les dirigeants à créer des richesses autour des potentialités de chaque région du Mali.
C'est avec l'arrivée de la Russie sur le plan économique, peut-être une porte de sortie pour qu'il y ait l'économie de distribution, l'économie circulaire, pour que chacun y gagne. J'ai souvent l'habitude de dire que l'économie est basée sur le secteur primaire, tertiaire et secondaire. Il faut d'abord développer le primaire qui est l'agriculture et ensuite aller dans le secteur tertiaire qui est l'industrie. En ce moment-là, il y aura un développement.
Afin de concrétiser toutes ces annonces, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est attendu à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique. Cette rencontre est prévue fin juillet 2023.